14 heures. On en jase. 100% parler tout l'été.
Boulevard 102.1.
Salut Victoria.
Salut, salut, ça va?
Ça va très bien, sûrement plus que tous ceux dont tu viens de nous parler ce midi parce que ça a été méchante grosse semaine au fait d'hiver.
Oui, encore une bonne semaine, notamment mardi, grosse journée. Là, on a eu 3 accidents en 30 minutes. Là.
C'est en 30 minutes que ça s'est passé.
Oui, très rare que ça arrive. Fait qu'on a eu celui qui a foncé dans la façade de Bière et Frites. On a eu l'enfant qui a été happé dans Limoilou. Puis dans le secteur de Cap-Rouge, on a eu un accident avec un scooter. 3 accidents qui ont fait des blessés. C'est très rare que ça arrive dans un petit laps de temps là, comme ça à Québec.
Oui, tu me rappelles, on était en onde. Fait que c'est vrai que c'était dans... Nous, on l'a peut-être vu dans l'espace d'une heure, ouais. Là, parce qu'on faisait d'autres dossiers et on couvrait des choses différentes. Mais j'avoue qu'au 88-971-1021, les gens nous écrivaient à ce niveau-là. C'était très nébuleux au départ, là, surtout le coin de Bière et Frites, là, ce qui s'est passé. Un ado qui a perdu le contrôle de son véhicule, mais qui a foncé directement dans le commerce.
Oui, bien, de ce que j'ai compris, il a frappé le client en premier. Il y avait client qui sortait. Il a frappé le client en premier. Le client a rebondi sur la fenêtre, mais le véhicule a aussi continué sa course jusque dans la fenêtre aussi. Là, c'est juste qu'il n'a pas traversé complètement la façade, mais c'est l'impact du client et de la voiture qui a fait le bris matériel.
Puis je me souviens, on avait eu comme information qu'il était rentré à toute vitesse dans le commerce, puis on se demandait, ben voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Comment qu'un véhicule peut rentrer aussi rapidement? De ce qu'on comprend, c'est une erreur du conducteur.
Oui, totalement. T'sais, souvent, on a des cas comme ça où c'est délibéré, où c'est quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale puis qui veut vraiment foncer dans un bâtiment. Mais c'est pas le cas.
Ça s'apparentait un peu.
Ça s'apparentait à ça.
Pour la vitesse puis tout ça. Heureusement, on a appris que c'était pas ça.
Exact. Heureusement, c'était pas ça. C'était vraiment un conducteur inexpérimenté là, qui s'est trompé de pédale. Ça peut arriver à tout le monde, là, mais dans son cas, c'est vraiment trompé. Fait que la vitesse est partie super rapidement. Puis, c'était un nouvel. Il venait tout juste de s'acheter son véhicule, vraisemblablement, là, parce qu'il y avait une plaque temporaire. Là. Fait que, tu sais, c'est vraiment une question d'inexpérience. Il n'y a pas d'accusation criminelle là-dedans. C'est un bête accident.
Heureusement, la personne qui a été happée s'en sort, blessure, mais on avait peur aussi pour sa santé et sécurité. Même chose du côté de l'enfant dans les Limoilou, dans le même 30 minutes dont tu parles. Ça a été une grosse journée. Ça faisait beaucoup d'accidents en ce début des vacances de la construction, là, au début de la semaine passée.
Oui, exact. Puis je pense que l'an dernier, ça a été l'année la plus meurtrière sur les routes là, depuis des années. Je pense que c'était 35 décès pendant les vacances de la construction. Puis là, cette année, il y a une grosse campagne de sensibilisation de la SAAC. Là, vous l'avez sûrement vu passer parce qu'on veut diminuer ce bilan-là. Puis pour le moment, on n'est pas dans ces chiffres-là, là, mais il y a plus de gens sur les routes.
Puis pour l'enfant qui a été frappé dans Limoilou, est-ce qu'on a plus d'informations? Parce que je me souviens qu'on nous disait que l'enfant... Qui était très jeune, là, 2 ans, si je me souviens bien, circulait seul sur la 4e avenue?
Écoutez, l'enquête n'est pas terminée à ce niveau-là. De ce que j'ai compris, il n'y aurait pas non plus d'infraction criminelle. Fait que ça serait probablement un cas de l'enfant était au mauvais endroit. J'ai pas réussi à confirmer non plus si les parents étaient présents. T'sais, c'était un enfant de 2 ans, là, donc très, très bas âge. Là. Fait que, très mystérieux, effectivement. Là.
On va espérer que tout se passe bien pour cette famille-là. Heureusement, ben c'est ça. On craignait pas pour sa vie, mais blessure assez importante. Gros 30 minutes, oui, cette semaine. On revient avec toi, Victoria Barry, parce que tu couvres ces faits divers-là pour Le Soleil. Il y en a un qui a attiré notre attention, c'est l'intervention policière près de Grande Allée. Je suis pas sûre qu'on a tant couvert la chose dans les médias là, quand c'est arrivé, mais toi, tu l'as fait.
Oui, bien, ça a donné que je travaillais ce samedi. Des fois, on fait des fins de semaine, fait que ça tombait bien.
C'était en plein Festival d'été de Québec.
Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une enquête du BEI qui a été déclenchée. Ça arrive pas souvent, ça arrive quelques fois par année. Puis souvent, c'est quand il y a un décès lors d'une opération policière. Dans ce cas-ci, c'était un blessé grave. Donc, le BEI peut déclencher une enquête pour 2 raisons. S'il y a un décès pendant une intervention ou s'il y a un blessé qui laisse des séquelles permanentes. Là. Fait qu'il faut vraiment que ça soit un blessé grave. On peut penser à commotion cérébrale, quelque chose qui laisse des séquelles. Donc, dans ce cas-ci, c'était quelqu'un là, qui se promenait dans la rue avec une bière, comme plusieurs font pendant le Festival d'été de Québec, on le voit. Là. Mais bon, c'est illégal, donc les policiers sont venus l'intercepter. Puis, pour une raison qu'on ne connaît pas, l'intervention aurait dégénéré, l'individu se serait sauvé. Puis, pendant cette fuite-là, aurait fini blessé gravement. Il y a 2 versions qui circulent. Ça pourrait être soit que l'homme serait tombé lui-même sur la tête, commotion cérébrale. Ça peut déclencher une enquête du BEI, ça. C'est, c'est, ça peut être aussi simple que ça. Puis il y a une autre version qui dit que les policiers ont vraiment foncé dessus. Pour l'instant, on n'a pas la réponse.
Et chuté. Donc, on va devoir suivre ça. Des fois, les délais ne sont pas super courts dans ce genre de situation-là, d'autant plus qu'il faut soigner la personne qui s'est blessée. Donc, on va être capable d'avoir des réponses à cette quand même importante enquête-là. Quand ça sonne avec BEI, ça sonne avec importance. Oui. Ça peut se résulter en pas grand-chose, mais on prend ça au sérieux. Arrestation dans une frappe policière liée aux Hells Angels aussi cette semaine.
Ben oui, tu sais, la semaine dernière, on se parlait d'une grosse opération du SPVM. Cette semaine, on a une opération de la Sûreté du Québec, de l'équipe intégrée de lutte contre le crime organisé. C'est une saisie quand même importante, encore une fois, mais on avait moins de policiers sur le terrain cette fois-ci. Là, on parle d'une trentaine de policiers. On a saisi 165 000 $, 8,5 kg de cocaïne, 30 g de MDMA. C'était vraiment dans des véhicules et dans des résidences de la ville de Québec, puis il y a eu des arrestations.
Ouais, puis ça, je pense que ça va être encore dans nos nouvelles pour les prochaines semaines parce que on travaille très fort. On travaille très fort à éradiquer cette vente de stupéfiants là. On sera jamais capable de la colmater à 100% là, c'est mondial, c'est un problème mondial, il y a la consommation qui est inarrêtable. On voit les débats de société en ce moment dans Saint-Roch, dans le Vieux, dans Basseville en fait, à ce sujet de tous ces petits centres-là là, d'intervention et ou d'injection supervisée. Ça résonne beaucoup. On essaie d'aller chercher les plus grands vendeurs à Québec. Mais as-tu l'impression, comme moi, que ça va être une lutte très chaude?
Tout à fait. Puis j'en vois de plus en plus. Puis tu sais, souvent, les gens disent que les policiers visent moins les Hells Angels. On voit dans ce cas-ci que c'était vraiment une frappe dirigée vers les Hells. J'en ai vu plusieurs dirigées vers les Hells. Parfois, c'est dirigé vers BFM. Non, on n'est pas sorti du bois, là, clairement.
Dans tes dernières interventions en tant que journaliste, en fait, tes derniers textes, tes derniers papiers, puis même tes dernières conversations avec les policiers, ce que tu vois, c'est-tu plus envers les Hells ou envers les nouveaux groupes émergents du crime organisé?
Mais je vous dirais que les nouveaux groupes émergents, il y a peut-être un ou deux ans, il y a vraiment eu un gros effort. Donc, la majorité ont été arrêtés. Tu sais, BFM, là, la grande majorité des membres influents étaient entre les murs. Là, on voit qu'ils sont en train de se reconstruire avec un club école.
Ça, c'est la gang à Pic Turmel.
La gang à Pic.
Ça va avec le moment où il est parti du pays, peut-être?
Oui, peut-être. Puis aussi, tu sais, quand il a été arrêté, là, il y a eu aussi des répercussions comme on discutait la dernière fois. Mais dans les derniers mois, moi, je vois plus de frappes envers les Hells. Je pense que peut-être on a fait un bon ménage dans BFM, NSG. Il y a toujours de la relève, mais là, je vois un plus grand effort chez les Hells.
Mais il y a quand même... On peut dire que c'est une priorité pour notre service de police. On voit que l'effort est beaucoup concentré autour de ça au cours des dernières années.
Définitivement. Puis avant, tu sais, quand on pense à la guerre des motards, quand la guerre des motards avait commencé, c'était une stratégie policière qui était différente. C'était un peu plus de laisser aller. Là, depuis la guerre des motards, il y a vraiment une stratégie qui est d'intervenir le plus souvent possible puis de faire des frappes comme ça. C'est pour ça qu'on en parle plus dans les médias aussi. Là, c'est vraiment une conséquence de cette nouvelle approche-là de la part de la police.
De montrer qu'on est encore sur le terrain, qu'on regarde encore de près les activités, qu'on fiche les membres, qu'on est assidus en fait sur les nouveaux membres aussi. Je ne sais pas si tu vas avoir réponse à ma question, mais souvent dans les nouveaux groupes, on voit de la jeunesse. On vient de jaser avec Elisa Cloutier, qui est journaliste aussi sur le terrain à Québec, puis elle constate des erreurs sur la personne, mais... La jeunesse, là, l'appât du gain là, qui est en arrière de ça, c'est tellement important. Est-ce qu'on a le même son de cloche au niveau des vieux groupes criminalisés? Je ne veux pas viser personne, mais Hells Angels... Est-ce qu'ils recrutent autant de jeunes? As-tu ces échos-là?
C'est moins dans leur stratégie au moteur. Le recrutement des jeunes, on le voit vraiment plus dans les nouveaux gangs parce que les Hells Angels, il y a plus une espèce de code, il y a des règlements qui sont... Ils ont moins tendance à aller vers là.
On est encore dans la vieille garde, là. Tu sais, tout ce qui était mafia, les Hells Angels bien implantés. Mm-hmm. Dans le temps, les Rock Machine, c'était des groupes qui avaient des barèmes et des réglementations sévères, même si c'était des criminels.
Oui.
Les enfants, les femmes, la hiérarchie, notre chef de gang, on ne fait pas des crimes devant tout le monde. Ça a brassé la guerre des motards, mais OK. Fait qu'on est encore dans ces mœurs-là.
C'est ça. Tandis que les nouveaux groupes criminels sont sont plus jeunes, ils utilisent plus la technologie, donc c'est plus facile de donner des contrats à des plus jeunes, d'aller les rejoindre directement. Donc c'est pour ça qu'on voit, c'est vraiment un nouveau phénomène, l'octroi des contrats chez les jeunes. Là. C'est vraiment parce qu'il y a des nouveaux groupes qui ont décidé de procéder ainsi. Puis, tu sais, je dis pas que les Hells le font pas, là, parce qu'il y a moins d'accusations criminelles quand on est mineur, ça, c'est certain. Puis c'est, depuis toujours, on utilise des jeunes pour cette raison-là, mais c'est juste moins une approche qui est priorisée chez eux.
Puis je voulais prendre un peu de temps avec toi, peut-être plus de temps sur cette nouvelle-là, parce que on a, cette semaine, creusé un peu plus sur la chute du bambin dans une garderie. Maintenant, on sait, Victoria, sous ta plume, dans le soleil, que l'établissement est visé par 13 plaintes.
Oui, c'est ça. J'ai fait une demande au ministère de la Famille parce que beaucoup de rumeurs et d'allégations qui circulent sur cette garderie-là. J'ai aussi parlé à des anciens employés qui ne voulaient pas être cités parce qu'il y a une espèce de crainte de mise en demeure de la part de la direction. Mais il y a beaucoup de choses qui circulent, des manquements de sécurité, un manque de vigilance. Puis on n'a pas encore la preuve là, de l'enquête sur la chute récente. Donc, je suis allée voir s'il y avait eu d'autres cas, d'autres plaintes. Puis le ministère de la Famille m'a confirmé 13 plaintes en 3 ans au cours des 3 dernières années. Parmi celles-ci, c'est pas toutes les plaintes qui ont mené à des mesures correctives. Donc, comment ça fonctionne, c'est que quand on fait une plainte auprès du ministère de la Famille, le ministère de la Famille enquête, fait des vérifications. S'il considère qu'il y a eu un manquement ou qu'il y a vraiment eu quelque chose de grave, bien, il y a des mesures correctives qui sont prises. Donc, parmi ce nombre-là, on en a 3 qui ont nécessité des mesures correctives. Puis, il y en a 5 qui sont encore en cours de traitement parce qu'ils ont été logés au cours des derniers jours. Probablement que la chute a moussé un peu les
gens à aller faire leurs plaintes ou encore à décrire ce qu'ils avaient remarqué, mais peut-être garder ça pour eux. Ça a peut-être attiré l'attention à ce niveau-là. Est-ce que tu as eu des appels personnels? Est-ce qu'il y a des gens qui ont pris la peine de contacter les journalistes aussi? Oui.
Bien, il semble avoir une certaine mobilisation chez des employés qui voient des choses puis qui ne savent pas trop comment procéder. Puis, tu sais, je veux pas parler pour eux, mais je pense qu'il y a une inquiétude là, au sein de la garderie. En même temps, on n'a aucune preuve en ce moment là, de manquement. J'ai aussi parlé à une mère qui a fréquenté cette garderie-là, puis qui a quitté parce que son enfant de 8 mois a fait une chute. Il y a eu quand même des séquelles graves là, chez le dentiste et des dents qui étaient renfoncées, cassées, puis qui trouve que la direction a mal agi dans ce dossier-là, parce que ce qu'elle allègue, c'est que la direction a dit que le bambin n'était pas tombé sur la tête, et finalement, le médecin est arrivé à la conclusion contraire. Là. Donc, elle dénonce un manque de transparence là, de la part de la direction. En même temps, je veux dire, des chutes de bambins, ça arrive souvent en garderie, là, selon ce qu'on me dit, mais je pense que c'est la gestion de la chose qui dérange. Là, dans
la transparence, c'est une erreur, là, c'est assuré que ça peut arriver là, auprès de jeunes qui grouillent, qui découvrent leur corps, leur motricité. Ça, puis là, quand t'en as une coupe, c'est sûr qu'on a réglementé le nombre de jeunes qu'on peut avoir là, dans une garderie, mais tu peux te faire prendre, même un parent se fait prendre par son propre enfant. Le bout de la transparence, par exemple, tu sais, on pourrait faire un parallèle en relation de couple. Au moment où tu perds la confiance, bonne chance pour la retrouver. Quand c'est ton enfant que tu confies, puis c'est ça qu'on disait la semaine passée, à d'autres personnes, que des gens que tu connais là, proches de toi, ou encore que tu payes pour faire la job que tu aimerais faire, mais il faut que tu ailles travailler, tu sais. Puis qu'on n'a pas de transparence quand il arrive un accident, comment veux-tu continuer à fréquenter un endroit? Ça doit être très difficile pour un parent.
Et on n'a pas encore des résultats de l'enquête, mais du côté des établissements, encore une fois, on semble comme vouloir étouffer l'affaire puis insinuer qu'il n'y a pas vraiment eu d'incident majeur qui s'est produit.
Bien, ce qu'ils disent, c'est que la fenêtre par laquelle le bambin serait tombé ne serait pas située au deuxième étage. C'est vraiment ce point-là qu'ils nient. Ils n'ont jamais nié qu'il y avait eu une chute de bambin qui était assez grave. Ils disent que l'enfant se porte bien. Mais récemment, ce qui a changé un peu dans leur stratégie de communication, c'est qu'ils ont embauché une firme de relations publiques.
Pour gérer la crise. Souvent, en gestion de crise, c'est des gens qui font ça. OK, oui, c'est sûr, ça se rend à l'actualité et tout. Donc, peut-être qu'ils veulent, contrôler l'information. Mais ça aussi, c'est peut-être un peu problématique là, quand tu es un parent. Tu veux juste avoir leur juste
c'est
sur ce
qui se passe. Il y a plusieurs parents, quand c'est sorti, qui ont retiré leur enfant de ce milieu-là parce que la direction ne les aurait même pas contactés pour leur informer de l'incident. Ils auraient appris ça dans les médias.
Et là, c'est sûr qu'au niveau de la confiance, là, moi, je serais vraiment dans la difficulté de continuer de faire affaire avec n'importe quelle entreprise ou commerce qui s'occuperait de mes enfants. Tu sais, c'est la prunelle de nos yeux, on l'a toujours dit. Victoria Barry, tu continues de suivre les faits divers pour Le Soleil. C'est un vrai plaisir de t'avoir cet été avec nous, à la radio également. On va pouvoir te lire tout au long de la saison estivale, toujours dans Le Soleil, à l'automne aussi. Mais on a le privilège de t'avoir à chaque vendredi autour de 12h45.
Bien, merci beaucoup.
Merci d'être avec nous. Puis, bien, on te laisse passer un super beau week-end.
Bien, merci. Il fait beau, comme vous disiez tantôt. Là. Lâchez pas.
On en profite. Est-ce que tu es de garde en fin de semaine?
Non, je pars en petite semaine de vacances, moi. Là, donc, je vais pouvoir profiter du soleil, idéalement.
Amuse-toi bien. Puis oui, on te souhaite de profiter des au moins 4 prochains jours où il va y avoir du soleil mur à mur à Québec. Vous êtes dans On en jase à Boulevard 102.1. On revient dans un instant. Puis on va parler à notre cher Pierre Graff, PDG du regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec. On s'est posé la question suite à un article qu'on a trouvé dans un média français. Est-ce que la génération Z refuse de se faire exploiter au travail? Moi, ça me fait bien rire. Bien, est-ce que vous avez vécu de l'exploitation au travail? Je pense que intergénération, on est capable de dire qu'il y en a qui l'ont eu moins facile, qu'une fois que tu avais un travail, tu devais le garder, tu devais le conserver, puis ça se peut que l'employeur avait le gros bout du bâton. La situation économique entre la France et le Québec, ça a l'air de quoi? On essaie d'avoir des alliés là, à l'international? On est-tu capable de faire un genre de parallèle avec ça, ainsi que la pénurie puis l'impact sur le marché du travail? On s'en va jaser avec Pierre Graff. Restez avec nous dans On en jase. Mathias Turcotte est avec moi et je m'appelle Pascal Cévé. On revient.
Jusqu'à 14h.